notre Maître. Nous voulons que tu prennes tout notre cœur et que tu puisses en avoir tout l'honneur. Merci encore pour la grâce d'être là, cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous réunir. Nous voulons te remercier pour cette grâce, la grâce de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et nous te demandons que tu nous conduises par ton esprit dans ces instants qui viennent, pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, je vous avais dit que nous commencions une petite série sur la crainte de Dieu. On avait considéré ce thème. On avait vu la dernière fois que c'est un thème qui est très présent, très important dans l'Écriture. Je ne sais pas si vous avez gardé les papiers qu'on avait la dernière fois. On n'avait pas défini ce que c'était que la crainte de Dieu, mais on avait regardé son importance un peu. On a survolé, parce qu'on n'a pas regardé tous les passages qui traitent, mais survolé son importance dans l'Écriture. On avait vu que, je résume juste les choses qu'on avait vues, c'est que Dieu exige la crainte. Parce que vous rappelez, on avait vu que Dieu exige la crainte. À partir de plusieurs versets, il était appelé à faire des choses avec crainte, à servir Dieu avec crainte. Dans Deutéronome, Moïse disait que Dieu nous a commandé de craindre l'Éternel. Donc on avait considéré cet aspect des choses, hein, que Dieu nous appelle à la crainte, que c'était un commandement de Dieu, avec plusieurs versets, même et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On avait considéré deuxièmement que la crainte de Dieu caractérise le peuple de Dieu aussi. Le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les chrétiens, hommes et femmes, sont appelés des craignants Dieu. Donc la crainte de Dieu caractérise le peuple de Dieu. Et on avait vu dans ce point que les hommes impies sont décrits par leur absence de crainte. On voit ça dans l'Écriture. Hein. Ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux, hein. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel notre Dieu ». Donc on avait considéré cela. Les hommes pieux sont décrits par la crainte de Dieu. Donc les hommes impies par l'absence de crainte. Les hommes pieux sont décrits par la crainte de Dieu. Dieu avait dit à Abraham « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ici. On avait considéré aussi le fait que on avait vu la disposition favorable de Dieu envers ceux qui le craignent. La Bible dit que Dieu est favorablement disposé envers ceux qui le craignent. Donc la bénédiction de Dieu, on l'avait vu, est attachée à la crainte de Dieu. La direction de Dieu aussi est attachée à la crainte qu'on a de lui. L'amour de Dieu est attaché à sa crainte. Et puis aussi, on avait vu que l'attention même de Dieu est attachée à la crainte de Dieu. On avait conclu en disant qu'il n'y a pas de véritable foi ni de véritable relation avec Dieu sans crainte de Dieu. Voilà. Et puis qu'il est impératif pour le croyant donc de chercher à savoir ce qu'est la crainte de Dieu et de grandir dans la crainte de Dieu. Donc, si quelque chose est important dans l'Écriture, si nous sommes appelés par des commandements à avoir cette chose, à l'exercer, à la développer, il est important que nous cherchions à connaître ce qu'il en est vraiment et comment on peut grandir dans cela. Alors, aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est ce que veut dire la crainte de Dieu. On avait vu l'importance de la crainte de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? Alors, j'ai un petit papier encore ici. Alors, c'est pas très bien imprimé. Je suis pas non plus très satisfait de l'organisation sur le papier, hein. Bon, j'aurais voulu mieux faire, mais vous prenez un, il y en a chacun. Merci tout le monde. Et puis, on va répondre à quelques petites questions. J'ai laissé quelques petits trous. Première question ici, que je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Comment définiriez-vous la crainte de Dieu? Il en a encore quelques-unes sur la machine là-haut. Si Il y en a encore quelques que j'ai tirées, donc c'était pas terminé quand je suis descendu. Alors, comment définiriez-vous la crainte de Dieu? Je vous laisse réfléchir une ou deux minutes. Ce que vous pouvez mettre sur votre petit papier, j'ai laissé deux lignes blanches que vous puissiez écrire si vous voulez. Pour avoir votre crayon, on travaille. Là, on a, c'est la rentrée des classes depuis un mois, je vous signale. Donc, on travaille. Les vacances, vous aurez le droit d'oublier votre stylo dans 3 semaines. Il y a manque, quelqu'un n'en a pas? Voilà. Ouais. Bien. Alors, on peut répondre après ensemble à cette question. Est-ce que vous avez une idée? Comment vous définissez la crainte de Dieu? Quand vous voyez parfois la crainte de Dieu, oui, mais juste avec nos mots à nous, quoi. Ça c'est vrai que la Bible dit cela, mais juste comment vous pensez à ce mot quand vous voyez le mot crainte? Quoi vous pensez? Oui.
À la fois un grand respect, oui. Un très grand respect, oui. Et simplement la crainte.
Oui, la peur, tu veux dire? D'accord.
Ça peut
être la peur, d'accord. Donc, grand respect, c'est-à-dire respect, grand respect, et aussi crainte, c'est-à-dire appréhension, peut-être. Hein. Oui, d'autres, en d'autres choses.
Obéissance.
Obéissance, d'accord. Craindre Dieu, ça veut dire obéir, d'accord, oui.
La peur de lui déplaire,
d'accord, très bien. D'autres choses encore, vous voyez, quand vous voyez la crainte. Trembler devant Dieu, oui. Là, l'intégrité, d'accord. Très bien. Alors, j'ai regardé dans d'autres. Quelqu'un d'autre voulait dire des choses? Oui, Jean-Pierre. D'accord. La crainte peut être différente de Dieu, peut être différente pour ceux qui connaissent. D'accord, oui. Très bien. Un grand respect mélangé avec l'amour. Et pour les non-croyants? D'accord, ok, très bien. Oui, merci. Vous avez bien travaillé. Bon, je m'en vais maintenant. j'ai regardé dans le dictionnaire un petit peu le sens de la crainte, juste dans le dictionnaire Larousse, un pouvoir. Il dit c'est l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur. Il y avait deux sens qui donnés. Donc quelqu'un qui a un sentiment de peur ou quelqu'un qui éprouve aussi l'appréhension d'un danger ou d'une douleur ou d'un mal qui est à venir. Par exemple, quelqu'un peut dire j'ai des craintes au sujet de l'avenir professionnel de mon fils ou de quelqu'un. C'est pas forcément une peur panique, mais c'est une peur appréhension, on pourrait dire. Elle appréhende ce qui pourrait venir. Ce qui pourrait venir. Donc dans l'écriture, le sens peut être un petit peu comme cela, mais il peut être aussi complètement différent. Quel sens donc, la question que je mets en dessous, quel sens donc a la crainte de Dieu dans l'écriture? Alors, il a parfois le sens de, alors j'ai laissé un petit espace ici, pour écrire, j'ai deux mots ici, de la frayeur ou de la terreur. Hein, pour avoir le sens de la frayeur ici ou de la terreur qu'inspire Dieu par sa grandeur, sa toute-puissance, et puis aussi par le jugement qu'il pourrait exercer. Alors, par exemple, non, j'ai pas mis ici d'exemples particuliers, hein, mais vous vous souvenez dans Daniel, je crois que c'était le roi, c'était Nébuchadnezzar, je m'en rappelle plus, mais qui avait décrété qu'on devait craindre Dieu, hein, parce qu'on devait même avoir de la frayeur, parce que Dieu est le grand Dieu, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et je vous ai mis ici un Jonas chapitre 1 verset 9, où il est dit, ces hommes furent, donc vous vous rappelez de Jonas, avec les matelots, Ils l'ont jeté par-dessus bord pour que la mer se calme. Et puis après, la Bible dit que ces hommes furent saisis d'une grande frayeur et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors, ça pourrait être un grand respect, on pourrait dire, mais ici, hein, ça peut être aussi une, parce qu'avant, ils avaient peur de le jeter et que, voilà, que la colère de Dieu s'abatte aussi sur eux. Donc ça peut être aussi une crainte, une certaine frayeur ou une certaine terreur. Ça, c'est un premier sens que l'on trouve dans la Bible. On va regarder ça après. Et puis, il y a aussi, la crainte peut avoir le sens du respect profond. C'est exactement ce qu'a dit Guy tout à l'heure, hein. Un profond respect, donc là, j'ai mis dans ce sens. La crainte peut avoir aussi le sens du respect profond. Donc, ce respect cherchant à ne pas offenser Dieu. Donc, la crainte de Dieu aussi a le sens du respect profond, cherchant à ne pas l'offenser. Comme tu as dit tout à l'heure, hein, la peur de lui déplaire. Donc, c'est la crainte qui exprime, j'ai mis ici, l'honneur. C'est la crainte qui exprime l'honneur et la vénération que l'on porte à son nom. On pourrait ajouter l'amour, empreint d'amour, comme l'a dit tout à l'heure le frère Jean-Pierre. Et par exemple, on peut trouver dans Deutéronome chapitre 20, on peut regarder ça ensemble, mais Deutéronome chapitre 27, Deutéronome chapitre 27, qu'est-ce que j'ai mis ? 5, pardon. Chapitre 5, verset 27, oui. Deutéronome chapitre 5, ici, et au verset 27. Quelqu'un veut lire ça, 27 à 25, à 29? Voilà, et on voit ici que dans cette crainte, Dieu se réjouit dans cette crainte qu'il voit dans le cœur de ce peuple, et consiste en fait que le peuple veuille écouter sa parole, veuille la mettre en pratique. Et donc Dieu dit, voilà, ça c'est une manière de le craindre. Il y a ici la vénération pour son nom, pour sa parole, le respect du Dieu saint. Il dit, s'ils avaient toujours cette attitude pour me craindre et pour me servir. Néanmoins, bon, on a vu cela, il y a deux grandes, si vous voulez, le curseur, on pourrait dire, hein, tout à l'heure, Guy a dit, bon, c'est pas tout à fait la peur, mais une certaine crainte, et puis après, de l'autre côté, il y a le profond respect. Et puis, on peut se dire que, voilà, entre les deux, il y a peut-être plusieurs choses qu'on pourra voir plus tard, mais c'est vrai que la Bible exprime cette crainte de Dieu sous cet aspect, terreur, frayeur, on pourrait dire, effroi, et puis aussi profond respect. Donc, on veut regarder aujourd'hui seulement la partie frayeur. J'appelais ça le point A, la crainte frayeur. Alors, on dit souvent que le chrétien n'a pas à avoir peur de Dieu. Et nous disons qu'il est à l'abri, c'est vrai que la Bible dit qu'il est à l'abri de la colère de Dieu, parce qu'il a placé sa confiance en Jésus-Christ. Mais est-ce que le chrétien peut quand même avoir des raisons d'une certaine frayeur de Dieu, d'une certaine crainte peur? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Ou est-ce qu'il peut se dire, moi, je ne crains rien de la part de Dieu et je n'ai pas à avoir peur. Je peux vivre tranquillement, etc. C'est la question que l'on se pose. Et parfois, oui.
Oui, parce qu'on voit un exemple, oui, où quelque chose s'est passé dans l'église des tout débuts, où c'était les chrétiens, où ils ont eu une grande crainte.
Oui, on va revenir à cet exemple tout à l'heure. Très bien, très bien. Donc, la question c'est, en tant que chrétien, peut-on avoir une crainte peur, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir? Quelqu'un a dit ceci, et je vous cite, hein, donc c'est un livre dans lequel je regarde beaucoup pour préparer ses études aussi, et le pasteur qui a écrit ça, il dit, Est-ce qu'un chrétien peut craindre, je le paraphrase un peu, hein, peut avoir une crainte, appréhension, une crainte frayeur de Dieu? Il dit oui, si vous avez un fondement biblique d'avoir peur de lui. Il dit pas non, il dit si on a un fondement biblique d'avoir peur de lui, oui, il faut le craindre. Et il y a le psaume 119, verset 20 que j'ai mis ici. 120, je pense que vous l'avez sous papier. Voilà. Le psalmiste dit, ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires. Il parle de Dieu, hein. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires. Et je crains tes jugements. Et on peut dire que le sens de la crainte ici, c'est pas le sens, ça colle pas à le sens d'un profond respect, hein. Si, on peut dire que c'est un profond respect pour les jugements, mais ce qu'il dit par rapport à sa chair laisse entendre que le sens qu'il donne au mot crainte ici est une crainte appréhension, frayeur, de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait arriver. Donc, on peut déjà, rien qu'avec ce petit exemple, dire que parfois, il y a des hommes de Dieu ici, hein, qui se sont... Alors, je sais pas comment j'ai mis ça sur votre... voilà, il y a dans l'Ancien Testament donc des hommes de Dieu qui ont éprouvé, ici, cette crainte. Donc, les hommes de Dieu ont éprouvé, j'ai oublié de voir ce point, ont éprouvé cette crainte, ici. Donc, psaume 119, verset 20. Et on se rappelle de David aussi, hein. David qui, lorsque, vous vous rappelez, Uzza avait posé sa main sur l'arche, et que l'arche était sur le point de tomber, et puis la Bible dit que Dieu a frappé Uzza. Eh bien, après cela, il est dit que David eut peur de Dieu en ce jour-là. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Donc c'était, on pourrait dire, une crainte-peur ici, qu'il a eu de Dieu à cause de ce qui s'est passé. Pourtant, David, c'était le serviteur, le roi, le serviteur de Dieu, hein, donc l'homme selon le cœur de Dieu, ici. Alors, les hommes ont éprouvé, mais ici, cette sorte de crainte. Mais on voit dans la Bible aussi que Dieu cherche à susciter cette sorte de crainte, si j'ose dire, cette crainte frayeur. Dieu cherche à susciter cette crainte. Déjà dans le jardin d'Éden, si vous regardez bien, Dieu dit à Adam, tu pourras manger, donne un commandement qui est un commandement positif ici. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Et puis, il aurait pu s'arrêter là. Tu n'en mangeras point. C'est un commandement qu'il lui donne. Mais il va plus loin. Il dit, donc je lis, hein, le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'autres traductions disent, tu mourras certainement. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Pourquoi est-ce qu'il dit à Adam, au jour où tu mangeras, tu mourras? Il peut plus dire, tu n'en mangeras pas, point. Mais il dit, tu n'en mangeras pas, et car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam, est-ce qu'il savait ce que c'était que la mort? Non, on ne savait pas ce que c'était que la mort à ce moment-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il a compris. Moi, je ne sais pas ce qu'il a compris de ce que Dieu a dit. La mort, il n'a pas su ce que c'était. Ça n'existait pas à cette époque. À ce moment-là précis. Mais, il a certainement compris que s'il ne faisait pas ce que Dieu commandait, s'il mangeait alors que Dieu avait interdit de manger, il y a un changement allait intervenir quelque part. Et que ce changement ne serait pas à son avantage. C'était après plus tard Dieu lui dit tu as mangé l'arbre dont je t'avais interdit hein, as-tu mangé donc il y a cette interdiction formelle que Dieu pose et donc on peut dire que Dieu l'a fait pour le pousser à se restreindre et à obéir au commandement qu'il lui avait donné en mettant une menace quelque part. La menace d'un changement, peut-être qu'il ne savait pas dans quel terme et à quelle profondeur ce changement interviendrait, mais il y avait quelque chose qui allait changer dans tout son environnement. Et ce ne serait pas une chose favorable. Donc il y a eu, alors, j'ai pas dit qu'Adam a eu la crainte. Après, il s'est caché, il a eu peur, la Bible dit. Mais c'était quelque chose déjà pour susciter une certaine appréhension, on pourrait dire, hein, de passer par-dessus le commandement. Deutéronome chapitre 17. Regardez ça, Deutéronome chapitre 17, verset 12 à verset 13. Il y a quelque chose que Dieu dit ici. Il dit à Moïse, l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, ici, le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre pas à l'orgueil. Alors, si on regarde bien ici, qu'est-ce que j'ai mis ici, le peuple doit craindre ici? Si, d'après ce verset. D'être puni de... Oui, moi je crois, c'est ça. Il doit craindre Dieu d'une certaine manière, mais comment Dieu veut qu'il le craigne? En voyant ce qui s'est passé avec ceux qui ont été orgueilleux, et qu'il craigne que la même chose lui arrive. C'est ça que le texte dit, il dit, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil, hein. Qu'il voit ce qui s'est passé, le châtiment qui est tombé, qu'il craigne cela, que cela lui arrive à lui-même, et que lui-même, il se restreigne et qu'il ne se livre pas à l'orgueil. Que le même sort lui arrive. Donc la mort, on pourrait dire ici. Donc le but clairement avoué, on pourrait dire, de Dieu ici, c'est de créer un électrochoc, on pourrait dire ça comme ça, hein, créer un électrochoc afin que le peuple apprenne à se détourner par la crainte, d'accord, de Dieu, hein, qu'il apprenne à se détourner de l'orgueil qui consiste ici, en l'occurrence, à ne pas écouter l'enseignement. C'était ça le problème. Ils n'écoutaient pas l'enseignement des sacrificateurs, lors de jugement, etc. Et donc le peuple, l'homme qui montre cet orgueil, il doit mourir. Dieu dit, et il veut que cela serve et que cela maintienne les autres ici. Alors on a beaucoup d'exemples. Guy a commencé à nous en donner de cela dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament aussi. Hein. Jésus, par exemple, avec ses disciples. Vous vous rappelez de ce passage où Jésus dit. Je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, c'est ça, et qui ne peuvent pas. Attendez, j'ai pas la même feuille que vous là. Je reprends ça. Voilà, et qui ne peuvent pas, qui ne peuvent rien faire de plus. Hein. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors, on voit bien ici que la crainte dont il est question, et c'est Jésus lui-même qui dit cela, c'est une crainte. Alors, le mot qui traduit crainte ici, c'est le mot phobéo. Ça vous dit quelque chose? La phobie, hein? La crainte panique un peu, hein, ça donne en notre mot français une crainte qui est une crainte panique, hein, on a une peur bleue de quelque chose, hein, ici. Et il dit, le contexte montre que la crainte dont il est question ici, c'est pas juste, bien sûr, on peut inclure le fait d'avoir un respect profond, mais c'est plus le fait de craindre. Il compare la crainte que l'on peut avoir de quelqu'un qui peut nous tuer, aux disciples, qui peut vous tuer, qui peut vous faire du tort. Et donc là, on a peur que tout le monde, en général, on a peur que quelqu'un nous agresse, nous fasse du tort, etc. Il dit, votre crainte ne doit pas porter seulement sur ça, elle doit porter sur celui qui peut à la fois faire du tort, tuer le corps, et aussi mettre l'âme dans la géhenne. C'est cela que vous devez craindre. Vous devez avoir cette peur-là, cette appréhension-là. Donc ici, c'est une crainte, on pourrait dire une crainte frayeur dont il est question d'après le contexte du passage. Et puis, je crois que Guy a cité et pensé à l'exemple d'Ananias et Saphira. Hein, on peut regarder ça dans Actes chapitre 5. Ananias et Saphira, Actes chapitre 5. ici, verset 5. Alors, vous connaissez cette histoire dans Actes, où, pour ceux qui connaissent pas, bon, je vous invite à lire à la maison, mais on est dans l'église primitive, au temps de l'église primitive, et les chrétiens s'assemblent, ils vendent ce qu'ils ont, certains vendent leurs biens, leurs champs, etc., et puis ils donnent, ils amènent les revenus de ces ventes au temple, et puis c'est distribué à ceux qui sont dans le besoin. Il y a un couple, Ananias et sa femme Saphira, qui ont aussi voulu donner, mais ils ont voulu montrer qu'ils donnaient, mais sans un cœur vraiment pour donner. Et ils ont vendu un champ, ils ont retenu une partie du prix, et puis ils ont amené l'argent, faisant comme si c'était tout le prix du champ vendu. Et l'apôtre Pierre, avec l'aide de l'Esprit, discerne ce mensonge, et Ananias persiste dans le mensonge en disant oui, eh bien, il tombe, il meurt. Et c'est intéressant de noter ce qui se passe dans l'église quand il meurt. Verset 5, il dit: Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. D'accord? Et puis, lorsque sa femme vient, et Pierre lui pose les questions, les mêmes questions, elle soutient ce que son mari avait dit. Elle aussi, elle tombe, expire, elle meurt. Et le texte dit: une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, au verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Et la crainte qu'ils ont ici, c'est une crainte qui est liée à l'événement qu'ils viennent de vivre. Imaginez, c'était quelque chose de terrible. Ils connaissaient Ananias et Saphira, peut-être depuis longtemps. Hein, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, etc. Ils sont peut-être venus, beaucoup, je sais pas moi à quel moment ils sont venus à l'église, etc. Mais voilà que dans le même instant, enfin dans 3 heures d'écart, le mari et la femme décèdent dans l'église à cause d'un mensonge. Et certainement, ils se disent, ah, c'est quelque chose qui est terrible. Ils ont une peur, frayeur. Des fois, on se pose des questions. Est-ce que j'ai pas menti dans ma vie? Est-ce que j'ai fait ceci? Pourquoi? Qu'on a peur que la même chose nous arrive, pas vrai? Et donc, c'est une crainte, frayeur qui s'est emparée de ces personnes. Et même au verset 13, c'est intéressant parce qu'au verset 13, le texte dit que aucun des autres, c'est-à-dire de ceux qui étaient à l'extérieur du peuple, de l'église, quoi, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Certainement, même à l'extérieur, il y avait une espèce de crainte. On dit, dans cette église, faut faire attention, quand on y entre, si on fait n'importe quoi, on tombe. Hein, j'imagine un peu comment les choses peuvent se passer. Donc, vous voyez, il y a quand même cette crainte. Et Dieu la suscite. Dieu fait cela, quoi, pour susciter cette crainte. Et puis, un dernier exemple, que j'ai mis sur le papier ici, c'est, alors, il y en a d'autres, hein, j'en ai choisi quelques-uns comme ça, mais l'apôtre Paul, à l'église de Corinthe, quand il écrit à l'église de Corinthe concernant la Sainte Cène. Vous vous rappelez bien de cet épisode, il y avait un bazar pas possible, il y a des gens qui venaient à la Sainte Cène et puis qui avaient mangé, qui buvaient, qui, etc. Et puis les pauvres qui étaient abandonnés, donc l'église se réunissait, appelait la table du Seigneur, ce qui n'était pas du tout la table du Seigneur. L'apôtre Paul corrige cela en 1 Corinthiens chapitre 11, c'est le passage que nous lisons souvent quand nous avons la table du Seigneur. C'est un passage correctif pour corriger l'attitude de l'église. Et l'apôtre Paul dit ceci, il écrit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. D'accord. Alors certes, il veut redresser la sainteté de la table de Christ, il veut que les chrétiens soient empreints d'un saint respect, d'une crainte respectueuse de Dieu, mais il va plus loin, il dit, c'est pour cela, verset 30, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, il dit quelque part, attention, attention, vous devez craindre la même chose. Vous risquez la maladie, la mort, si vous ne changez pas d'attitude. Et donc, c'est une, quelque part, en filigrane, il explique que les gens qui sont malades, quelques personnes, en tout cas, Beaucoup, il dit même beaucoup, je crois. Hein. Beaucoup de ceux qui sont malades et ceux qui sont déjà morts, il y en a qui sont morts à cause de la manière avec laquelle vous avez méprisé l'église de Christ, la table du Seigneur. Alors, les gens pensaient peut-être qu'ils sont morts du Covid ou d'une maladie qu'il y avait à l'époque. Mais Paul dit que c'est à cause. Le Covid ou la maladie qu'ils ont eue, c'était simplement l'instrument que Dieu a utilisé. Mais la cause profonde, c'est leur attitude à l'égard de l'Église de Christ qu'ils ont méprisée par leur comportement. Et c'était des chrétiens. D'accord. Donc, c'est un enseignement qu'ils donnent pour avoir une crainte, frayeur de ce qui pourrait arriver aussi. Donc, est-ce que le chrétien doit avoir une certaine crainte? On ne parle pas d'une espèce de peur dans toutes les routes que l'on prend, mais une crainte qui va jusqu'à dire, mais je ne voudrais pas non plus que ce châtiment tombe sur moi. Je ne voulais pas être puni de cette manière-là. Sentir sa chair comme le psaume 120 qui frissonne à l'idée de confronter Dieu, un peu pour la même raison. Paul utilise la Sainte Cène dans 1 Corinthiens, ça me vient à l'esprit maintenant, 1 Corinthiens chapitre 10. Quand il dit, vous vous rappelez, il dit, je veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il dit, vous pouvez pas faire les deux. Et puis après, il ajoute, voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Je sais pas s'il dit pas, êtes-vous plus, faudrait regarder 1 Corinthiens 11, hein, rapidement, hein. Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 10, et c'est quel verset, c'est quelqu'un là? Je suis dans 2, je ne sais pas aller ça. 1 Corinthiens chapitre 10, et au verset 22, il dit bien, j'avais un doute sur la dernière partie du verset, 22. Il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Et puis il ajoute une question. Sommes-nous plus forts que lui? C'est quand même quelque chose qui est fort, hein. C'est pas, là on est dans la crainte, vous allez affronter Dieu, vous osez, vous savez ce que vous faites. C'est ça qu'il est en train de dire. Okay. Donc, il y a cette crainte qui est suscitée par Dieu dans les jugements qu'il produit. Alors, dernier point qu'on va regarder un petit peu ici, hein, c'est pourquoi est-ce que Dieu suscite cette sorte de crainte frayeur. Pourquoi est-ce qu'il la suscite? Eh bien, il y a peut-être plusieurs raisons, mais j'en ai mis une ici pour maintenir conscient, ou on a dû nous maintenir conscient de la réalité du jugement présent et à venir. Dans le petit trou là, c'est jugement qui va. Et pour nous maintenir conscient de la réalité du jugement présent et à venir ici. Notre manière de vivre est déterminée par ce que nous croyons du jugement qui peut nous tomber dessus. Je ne sais pas comment il faudrait dire ça, hein, qui peut nous arriver. Hein. Quand vous parlez avec des personnes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, mais les gens peuvent vous dire, oh, moi, le jugement, il n'y aura pas de jugement. Hein. Si on pense qu'il n'y aura pas de jugement, on vit d'une certaine manière. Ou si on pense que on fait suffisamment bien pour nous être épargné du jugement, on vit d'une certaine manière. Hein. Ce qui guide notre vie, c'est la perspective, notre doctrine du jugement à la fois présent et du jugement à venir. Alors, on a parlé déjà du jardin d'Éden où Dieu avait laissé la menace d'un jugement sur Adam et Ève, mais les chrétiens sont exhortés, hein, les chrétiens sont exhortés, je crois, à vivre avec cette perspective du jugement de Dieu. Et Dieu suscite parfois cette crainte qu'on a vue, frayeur, pour maintenir toujours conscient que le jugement peut arriver. Et le jugement, c'est pas simplement le jugement à venir, c'est à la fois le jugement à venir, mais le jugement aussi présent. La Bible dit dans Psaume 75, verset 8, que Dieu est celui qui juge. Dieu est celui qui juge. Et on voit, il y a plusieurs versets de la Bible qui montrent que Dieu peut juger présentement. On a vu l'exemple d'Ananias et Saphira, l'exemple de l'église de Corinthe, mais le déluge, hein, dans la Bible, tout ça, ce sont des jugements qui se sont exercés dans le temps présent. Et Dieu dit même, il y a des passages de la Bible qui dit que Dieu exerce son jugement à la fois, d'accord, il va l'exercer dans l'avenir, mais il exerce aussi dans le présent. Et le Seigneur Jésus est présenté comme celui qui va juger. Et en tant que croyant, je crois qu'on est amené à considérer le fait que nous devons vivre dans la crainte de Dieu parce que nous pouvons être jugés déjà dans le temps présent pour ce que nous faisons. Par exemple, je prends un verset dans Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 17, que vous connaissez bien, puisqu'on étudie cet épître. L'apôtre Pierre dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, quelle est l'exhortation? Conduisez-vous avec crainte. On voit ici à la fois le Dieu qui juge et la crainte que l'on doit avoir. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur votre de votre pèlerinage terrestre. Il parle de celui qui juge comment? Selon l'œuvre de chacun. Donc à la fois, ça veut dire qu'il faut se conduire bien parce qu'on sera chacun. La Bible dit, hein, chacun recevra de Dieu selon ce qu'il aura accompli étant dans son corps sur la terre. Donc il y aura un jugement aussi pour le croyant, un jugement à venir. Mais on le voit aussi, on peut être jugé aussi déjà selon nos œuvres dans le temps présent. C'est pour cela que quand on est malade, par exemple, hein, je crois qu'il est toujours bon de prier Dieu. Est-ce que tu veux me montrer quelque chose, qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas conforme à ta parole? C'est pas forcément le cas. D'accord? C'est comme dans Jean chapitre 9. Qui a péché, Seigneur? Cet homme ou ses parents? Dieu dit, non, c'est ni l'un ni l'autre, hein. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que ce soit à cause d'un péché, comme ça arrive à l'église de Corinthe. Donc, il est important de se questionner. Et donc, je crois que ce passage vient nous conforter dans cette pensée. Si nous disons que nous invoquons comme Père, Dieu comme Père, n'oublions pas qu'il est celui qui juge. Et qu'il juge à la fois présentement et qu'il juge aussi dans l'avenir. Et par conséquent, on doit se conduire avec une certaine crainte. La crainte respect qu'on va voir la prochaine fois, mais aussi la crainte frayeur de ce jugement qui peut nous arriver à n'importe quel moment. Et je crois que quand, on prend l'exemple d'un enfant, quand un enfant sait qu'il ne recevra aucun châtiment, même si ses parents parlent, même si ses parents crient, qu'est-ce qui se passe? Il vit comme il veut. C'est lui le chef et le roi à la maison. Ecclésiaste dit, quand une sentence ne s'exécute pas promptement, le méchant s'endurcit dans ses voies. Ecclésiaste 8, verset 11, je crois. Hein. Si quelqu'un là, vous pouvez le lire. Hein, je ne vais peut-être pas bien citer. Mais ça veut dire, quand quelqu'un sait que la sentence ne va pas arriver tout de suite, son cœur a tendance à s'endurcir. Hein, à s'endurcir. Et c'est pareil pour les enfants. Si on dit qu'on ne fait jamais, bon, ils se disent, bon, ça va jamais arriver. Donc, il y a des gens qui vivent comme cela. Ils pensent à Dieu de cette manière-là. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le jugement arrivera et qu'il peut arriver. D'accord? Et que Dieu peut juger aujourd'hui comme il jugera aussi dans l'avenir. Et nous avons donc à nous conduire à avoir cette sorte de crainte, d'accord, nous conduit à la crainte respect. Elle n'est pas incompatible avec la crainte respectueuse que l'on peut avoir de Dieu, mais je crois qu'il nous faut craindre aussi le jugement de Dieu. Hein. Il y a un dernier verset que je veux vous lire. Il se trouve dans, est-ce que je l'ai mis là? Oui, dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Où il est question du mariage, par exemple. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, ça parle d'un jugement qui est un jugement à venir, mais d'un jugement qui peut être aussi un jugement présent. Hein? La Bible dit que dans Romains chapitre 1, que Dieu a abandonné les hommes, il les a livrés à leur penchant naturel, et ce qu'ils sont en train de vivre, c'est déjà le jugement de Dieu sur leur propre corruption. D'accord? Donc on voit que dans le temps présent, Dieu juge aussi. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, mais cette crainte, première définition, on n'a vu qu'une seule, une seule partie, cette crainte frayeur existe aussi. Les hommes l'ont éprouvée dans la Bible, mais on voit que Dieu aussi a cherché à la susciter pour maintenir son peuple, pour l'amener à la repentance. Il dit ça pour Judas, il parle de la perfide de Judas, il dit qu'il a fait beaucoup de désastres chez Israël, et la perfide de Judas néanmoins ne s'est pas repentie quand elle a vu toute cette terreur s'abattre sur le peuple d'Israël. Donc Dieu la suscite à bon escient pour que son peuple puisse avoir une crainte de lui et qu'il puisse s'éloigner aussi du péché, qu'il puisse se détourner du mal, qu'il puisse se détourner de l'orgueil. Donc laissons cette pensée, hein, de l'Écriture nous envahir aussi. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons que tu nous aides à la recevoir et à la mettre en pratique pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen.